Pop-Popienne, Pop-Popien et tous les autres aussi, bonjour. Drôle de titre, Arthur Rimbaud. C'est celui du nouveau film de Laurent Cantet dont nous recevons aujourd'hui deux des acteurs, Rabat Naït Oufella et Antoine Reinhartz. Un titre qui pourrait laisser espérer qu'une longue franchise se mette en place. Arthur Rimbaud 1, 2, 3, 4, etc. Ce qui assurerait à nos deux invités une visibilité à moyen terme, comme dit mon banquier. Ce qui est toujours bon à prendre dans un monde aussi instable, en particulier celui du spectacle. Mais ça ne risque pas d'être le cas. Ou alors, c'est que j'ai pas vu le bon film. Non, Arthur Rimbaud est un film unique pour plein de raisons, notamment parce qu'il rebondit sur une histoire réelle et qu'il traite d'un thème toujours brûlant et passionnant qui n'est pas sans évoquer aux fans de Stevenson que je suis, celui du bon Dr. Jekyll et du mauvais Mr. Hyde. Oui, cette dualité qui est au fond de chacun de nous et dont le côté obscur nous revient brutalement en pleine face, comme lorsque Charline fit la révélation au micro de France Inter que j'étais bien l'auteur de Xor qui traumatisa une génération entière. Comment vivre quand la vérité vous rattrape? Voilà un des sujets à l'ordre du jour dans cette édition de Pop 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 et c'est parti.
France Inter. Pop pop pop. Antoine de Caunes.
Rabat Naït Oufella, Antoine Reinhartz, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux dans Pop Pop Pop. Puisque la vérité finit toujours par vous rattraper, autant jouer les cartes sur table. L'un ou l'autre traîne-t-il un dossier compromettant qui, par exemple, pourrait ressurgir pendant l'heure qui vient?
Oulala.
Moi, j'ai une période Facebook exutoire, clairement.
Ouais. On a dit des grosses bêtises sur Facebook, Antoine.
J'étais un peu en colère.
En colère. C'est... Vous étiez en colère contre quoi à l'époque?
Contre le gouvernement de Nicolas Sarkozy, j'avoue.
D'accord.
Et j'étais assez radical.
C'était assez radical. Très bien. Ben voilà, au moins c'est
pas très constructif. Si mauvaise chose.
Et vous, Rabat?
Non, moi, à part avoir essayé de faire du rap à un moment de ma vie, tout va bien.
Ne vous inquiétez pas, ça va revenir, ça aussi. On va en reparler.
Je sais.
Non, pas très longtemps. Sinon, non, rien d'autre.
Bah, je crois que ça va, non?
Pas de cadavre dans le placard. Non, mais c'est le moment ou jamais de le dire. Faut pas avoir de mauvaises surprises après.
Je pense pas, mais bon, je vous laisse...
La surprise.
Vous me laissez la surprise. D'accord. Vous venez donc nous parler du film Arthur Rimbaud de Laurent Cantet qui sort en salle le 2 février. On va en parler longuement de ce film. Mais d'abord, parlons un peu de vous deux. Pour commencer, par du clinquant, vous avez tous les deux connu, et même très jeune pour ce qui vous concerne, Rabat, la folie du festival de Cannes. Vous gardez l'un et l'autre de bons souvenirs de ces deux semaines de dinguerie cinématographique cannoise?
Je t'en prie.
Bah, bien sûr. Non, mais en vrai,
le film était entre les murs et 120 battements. Hein, je précise quand même.
C'est assez beau. Enfin, c'est comment dire, c'est que du cinéma, du champagne, ouais. Tout est gratuit. Non, pardon, c'est pas du tout constructif ce que je dis, mais oui, bien sûr.
Et beaucoup de cinéma et du cinéma.
Beaucoup de cinéma,
24,
on peut voir tout ce qu'on veut.
Ouais. Ouais.
Avec des gens passionnants avec qui on débriefe toute la journée, on fait la fête toute la nuit, ouais. Et on se lève et on retourne au cinéma. Enfin, c'est quand même assez agréable.
Et vous, Rabat?
Bien moi, ma première fois à Cannes, j'avais 14 ans et j'ai toujours dit que lorsque j'y suis retourné pour présenter le film Grave, c'était pas ma deuxième fois, mais ma deuxième première fois, parce qu'en fait, je m'explique, la première fois, enfin quand on a fait Cannes avec Laurent Cantet, on avait tous à peu près entre 13 et 14 ans.
Ouais. C'était pour entre les.
Et murs. On se rendait, enfin pour ma part en tout cas, je me rendais pas vraiment compte de ce qu'on était en train de vivre. J'avais l'impression d'être un petit peu en classe de comme si on partait en classe de nature avec l'école. On y était.
Au zoo plutôt.
Et donc avec les surveillants de notre collège.
Ouais.
Et donc on se rendait pas compte, et pour vous confier une petite anecdote, lorsqu'on a reçu la Palme d'Or, je savais pas ce que c'était en fait.
Ah oui.
Donc on est monté sur scène pour récupérer notre prix, comme toutes les autres équipes de film montaient sur scène pour récupérer le leur. Et je réalisais pas vraiment, on a réalisé sur le retour, quand on s'est arrêté à une heure de repos pour mettre de l'essence, qu'on voyait qu'on faisait un peu toutes les unes de journaux. Et puis quand on est rentré, donc après ça... au collège, et qu'on était attendu par vraiment beaucoup de monde, et là, on s'est dit, OK, d'accord.
C'est
passé quelque chose. Donc, il y a eu le festival de Cannes, et ensuite, on a rencontré des personnalités incroyables, mais, enfin, que moi, je ne connaissais pas personnellement. Et après, le festival de Cannes, il y a eu le festival de Cannes aussi, je sais pas si vous vous en souvenez.
C'était César, oui.
que vous aviez présenté cette année-là.
Ouais, je m'en souviens très bien.
On pourra en parler aussi.
Oui, je vais recoller en plus. Bon, avant d'explorer un peu vos parcours à tous les deux, écoutons ensemble, si vous le voulez bien, un morceau d'Adriano Celentano qui me met littéralement en joie et je pense que vous allez partager ma joie. Écoutez-moi ça.
Freezing cold in ancient years old.
Hear the cold maids say one breeze and call in ancient Jews all right.
color boss died. Well, it's the same man, you know, called me Steen. You know, for some another judge, you called David's a sham. You're the common, not choose, not wife, but not soul, hope, hope, but just again, not the common, not thine. Oh, but if it's a stand, light the shoes, you go, my man. You've a costume, the man's called the Raider Girls. Oh, Sunday.
Nous écoutions ensemble Prison Colin and C9 Chusol, c'est imprononçable ce nom, c'est d'Adriano Celentano, en compagnie de Rabah Naïf Oufella, et d'Antoine Reinhardt, avec lesquels nous parlerons donc du film Arthur Rimbaud qui sort le 2 février au cinéma. En m'entendant dire qui sort au cinéma, je fais ici le vœu que l'on puisse le dire encore longtemps, ça. Qui sort au cinéma? Est-ce que vous êtes plutôt salle obscure tous les deux ou bien écran plat?
Vraiment en salle obscure et j'espère qu'on le dira encore pendant très longtemps, j'y crois. Et je sais que ces temps de pandémie n'arrangent vraiment pas les choses et que malheureusement les chiffres font peur. Mais je crois.
Mais il y a une vraie, les chiffres font vraiment peur. J'ai l'impression qu'il y a une vraie habitude à reprendre et même un petit effort à faire, même si très vite. Enfin, je sais pas. C'est moi-même, j'ai perdu l'habitude. En fait, il y a quelque chose. On a tellement perdu l'habitude d'y aller qu'il y a vraiment un petit effort à faire. Mais comme je sais qu'il y a une époque où, comme quand on nous proposait d'aller voir des super bons films, etc. Il y a ce petit effort. Finalement, on va voir Hairspray alors que tout le monde nous a dit va voir Persepolis, c'est dingue, ou va vivre et deviens, etc. Finalement, tu vas voir Hairspray. Bon, t'as passé un moment assez bof. Et 2 ans après, tu vois va vivre et deviens, et là, tu deviens le mec qui en parle à tout le monde et qui dit mais franchement, c'est vraiment très très bien et tout. Enfin, du coup, la satisfaction est très rapide, mais je sais pas pourquoi ça demande ce petit.
Aller dans les salles. Aller dans
ça,
les
c'est
salles.
C'est le petit effort à faire pour y être et après on se sent bien. Ouais. C'est comme la salle de sport.
Voilà. Il faut aider le cinéma. Il faut aller voir tous les films, y compris les films d'entre-deux, comme on dit, ou les films du milieu. Je me souviens plus de l'expression. Bon, vous avez des parcours assez différents tous les deux, même si vous venez de milieux à la fois socialement et géographiquement. Loin du grand écran. Rabah, vous êtes un enfant de Belleville, de la rue des Cascades, et c'est à un million d'années-lumière du Festival de Cannes, tout ça. Mais pour des millions de gens, c'est encore presque un enfant qu'on a découvert dans ce film.
Et mon B, c'est ma moyenne.
C'est quoi le rapport avec la poésie? Tu peux m'expliquer?
Mais mon B, c'est ma moyenne. 11,47, c'est 11,5.
Qu'est-ce qui t'a donné ta moyenne, d'ailleurs, là? Tu devrais pas l'avoir, vous avez pas de bulletin encore.
C'est Smaralda qui me l'a donné.
Ah.
Entre les murs donc de Laurent Cantet déjà, hein, c'était Palme d'Or en 2008. Comment ça s'était passé cette rencontre avec Cantet?
Eh bien, ils m'ont baissé ma moyenne. J'ai pas très Eh bien, non, quand Laurent Cantet est venu nous rencontrer dans... C'était un collège de ZEP, ouais. Un collège de zone d'éducation prioritaire, comme ils disent. Et donc, quand il nous a proposé de tourner un film, eh bien, je me suis dit que c'était une chouette expérience, mmh. que je pourrais vivre là et que les ateliers de théâtre m'intéressaient. Mmh. Donc, j'y ai participé, notamment avec Boubacar, qu'on retrouve dans le film. Et ensuite, j'ai appris que le film allait se tourner en été. Et en été, c'est les vacances. Et pendant les vacances, on ne va pas à l'école. Et donc, j'ai refusé en pensant aussi que voilà, qu'on allait tourner un film amateur, qu'on allait chacun notre tour tenir la caméra et qu'à la fin de l'année, on allait tous peindre à l'affiche et puis que...
Grosse erreur.
Qu'on allait faire une projection autour d'une kermesse avec une galette des rois et une pub à la limite.
Après, vous aviez une sortie scolaire à Cannes.
Et donc, j'avais refusé de participer à ce film. J'avais refusé plusieurs fois. Et puis Laurent a insisté. Ils ont convoqué mes parents.
Et vous forcer à faire du cinéma.
Et c'est ça. Et on nous a trouvé les arguments, notamment un argument quand même qui était de taille. C'était que le film était payé. Donc c'était un vrai travail. Et donc, heureusement que le film était payé parce que ça a ouvert à moi une vocation.
Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui.
Exactement.
Antoine, vous venez d'un village de 900 habitants, fils de parents vétérinaires, mais pas exactement un fils d'eux non plus. Encore que, parce que pendant longtemps, racontez-vous, vous avez été le fils de Gilles ou le fils des vétos pour les gens du village.
Ouais, le fils du Gilles. Parce que du c'est Gilles. Le Gilles, ouais. Chez nous, et le fils des Vétos, ouais, ouais. Du Gilles et de la Valérie. Et oui, en fait, mon père, en vrai, est une institution, parce que comme c'est le vétérinaire rural aussi, donc il va chez les paysans de tout le
coin. Indispensable.
Donc moi, mon père était hyper populaire quand j'étais au collège. Mmh. Donc...
Et vous avez longtemps hésité à embrasser la carrière d'acteur. Quelle est l'option qui vous a fait changer d'avis?
Alors, j'ai pas longtemps hésité. J'ai eu un parcours très... c'est-à-dire que chez nous, on fait au moins une classe prépa ou médecine. C'est un peu comme dans des familles où on fait le bac minimum. Donc j'ai fait ce cheminement pour ensuite revenir, et j'étais soutenu pendant très longtemps, mais du coup j'ai fini mes études à 29 ans. Mais c'était pas une hésitation, c'est plus un long parcours.
Et le moment où le grand public vous a découvert, c'est à la sortie de ce film.
Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous.
120 battements par minute, le film de Robin Campillo qui a marqué une génération entière en racontant l'histoire d'une autre génération. Vous avez d'ailleurs été récompensé du César du meilleur second rôle pour ce film. Ça a changé quelque chose pour vous ?
Oui, énormément. en vrai, c'est difficile de savoir ce qu'on attribue au film et au César, mais vraiment, on m'a proposé des rôles. Enfin, on nous considère. C'est difficile, en fait. C'est pendant longtemps. Enfin, quand on est au conseil, enfin, j'ai fait le Conservatoire de Paris, etc. Ouais. Donc, tout le monde veut faire. Et on se demande comment on va y arriver, ce qui va nous arriver. J'ai l'impression que quand même les choses ne nous arrivent pas totalement par hasard. C'est-à-dire que si je me retrouve sur ce film, c'est aussi parce qu'avant j'ai fait beaucoup d'humanitaire, plus de la réinsertion de personnes détenues, etc. Mais donc il y a quelque chose qui nous ressemble, même dans les formes, dans la vision qu'on défendait, et d'autres amis qui aujourd'hui bossent énormément font des choses qui leur ressemblent au théâtre chez Michalik ou des. Enfin, donc il y a quelque chose comme ça qui a du sens et qui vient un peu malgré nous, et qui est aussi un énorme coup de bol, parce qu'en fait c'est ce rôle-là qui peut à peu près nous correspondre à un moment où on a l'âge d'eux, donc ça tombe bien, on se rencontre quoi avec ce rôle, et ça a changé énormément. J'aurais jamais fait tous les films que j'ai fait après.
En tous les cas, ce que vous avez en commun, c'est que l'un et l'autre, vous avez fait des choix qui démontrent que vous avez envie d'intervenir dans le monde, d'être des acteurs de la vie sociale et pas seulement des acteurs tout court. C'est absolument indissociable pour vous, Rabat aussi?
L'art en général, ouais. Je pense que l'art doit servir une cause. Et que aussi certaines personnes le font sans même se poser de questions. Je sais que par exemple, quand j'avais 17 ans et qu'on proposait des rôles, certains me parlaient plus que d'autres. Et je me rends compte que plus tard, c'était des films qui parlaient social, qui parlaient politique, qui parlaient de sujets en tout cas qui me touchaient, et que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, les morceaux aussi qu'on aime bien.
Oui,
et puis c'est les morceaux qui nous parlent, quoi.
Le rap.
Entre autres.
Non, je ramène pas le rap. Mais bon, on va parler longuement du film Arthur Rambeau dans un instant avec Charline Roux qui va nous rejoindre, mais avant ça, écoutons ensemble, si vous le voulez bien, Steam Engine du groupe Hills. Hills. Oh, mais voici qu'arrive Charline Roux qui aime autant Rimbaud que Rambo, et j'ajoute Picard, puisque je me suis lancé le défi de toujours placer un Picard en vous accueillant.
Charline. Rien à voir avec la marque, hein, uniquement la région. Non, bonjour.
Alors, bonjour Charline.
Bonjour.
Charline, je vous présente Rabah Naït Oufella et Antoine Reinhartz. Parlez-nous de ce film Arthur Rimbaud qui n'a donc que très peu à voir avec le poète ou avec le mari d'Adrien.
Ça se discute. Karim D est un jeune auteur des plus prometteurs et ce soir on le célèbre, ou en tout cas on célèbre la sortie de son premier roman, déjà encensé par la critique. Ses éditeurs sont ravis, ses pairs le saluent, ses amis profitent de la fête donnée en son honneur. Mais voilà, au cours de la soirée, sur Twitter, des internautes déterrent bon nombre de tweets atroces qu'il a publiés sous pseudo Arthur Rimbaud. La descente est aussi fulgurante que l'ascension. Ce nom, ce titre, Arthur Rimbaud, oxymore entre la douceur du poète et la brutalité du vétéran, qu'est-ce qu'il vous a évoqué, messieurs, quand Laurent Kanté l'a prononcé?
Rabat.
Eh bien, quand j'ai appris premièrement que déjà Laurent faisait un film qui traitait de l'affaire M'éclate, eh bien, j'ai été surpris par le courage dont il faisait preuve pour parler déjà de cette histoire qui est vachement complexe. J'étais pas encore au courant que Laurent Kanté voulait me voir pour ce rôle. Et donc ensuite, j'ai passé le casting et puis j'ai découvert le scénario de ce film. Et la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il fallait que je rencontre Mehdi M'éclate pour un peu calquer le personnage ou essayer de le comprendre ou... Et là, il m'a tout de suite dit qu'on faisait pas un biopic, en fait, sur Mehdi M'éclate, mais qu'on faisait un film qui se sert de cette histoire pour... parler des réseaux sociaux et parler de
la brutalité
des médias et de ouais, ces réseaux sociaux qu'on utilise souvent mais dont on questionne très peu les mécanismes et les fonctionnements.
Antoine.
Oui, on les questionne, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de représentations. Moi, ce que je trouve assez dingue avec Laurent, c'est que là, en voyant le film, quand je l'ai redécouvert, je me suis dit, c'est la première fois que je vois. Alors, le film est assez haletant, il y a un petit côté thriller, donc ouais. C'est ça la trame, mais en même temps, c'est la première fois que je vois des gens qui sont à la fois sur une conversation et en même temps concentrés sur leur texto en même temps, des trucs vraiment d'aujourd'hui. Je me retrouve dans cette concentration. Il y a un moment, il est dans le métro et bon, les tweets sont sortis, donc il a une espèce de parano et on voit les regards des autres. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que je me dis, oui, bon, non, là, il est juste en parano. Cette meuf le regarde, je pense qu'elle le drague. Après, on se dit, ah oui, mais non, lui, franchement, il a lu le tweet. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans cette mise en scène, au-delà du côté haletant du film. Bon, après, oui, il a une palme d'or, Laurent, donc oui, c'est un grand metteur en scène, mais je le redécouvre, désolé, je suis un peu à la bourre, mais je trouve ça hyper fin et hyper, hyper satisfaisant à découvrir, et enfin, on montre quelque chose qui correspond à la vie. Enfin, ça fait 10 ans qu'on vit un truc quand même assez bouleversant. Enfin, moi, je passe 5 heures par jour sur mon téléphone, et à la fois, j'en souffre, et en même temps, c'est ma life, donc j'ai envie de... Là, d'avoir des représentations qui correspondent à ma vie d'aujourd'hui, ça, ouais, c'est assez rare. Et c'est pas juste un jugement, c'est juste j'ai une représentation, enfin, quoi.
Et Arthur Rimbaud de Laurent Kanté, ça donne ça.
Ah,
ben
voilà. C'est tout à fait mérité, votre livre est vraiment très fort.
Merci. Toi, t'as été très très bon.
J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois.
Je change de statut, là. Bla, 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 bla.
Les éditions Glossière viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud.
Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout.
Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme. Arthur Rimbaud, c'était de l'humour.
Je dirige une maison d'édition et vous venez de torpiller vos ventes.
C'est France Info, ils veulent Karim dans la matinale.
Voilà, ça commence.
Alors, c'est un film qui s'inspire donc, comme vous le disiez, Rabat, d'une histoire vraie, celle de Mehdi Meklat, jeune auteur et chroniqueur radio qui, après un passage dans une émission littéraire, a vu ressortir des dizaines de tweets homophobes, antisémites, sexistes qu'il avait postés sous le pseudo de Marcelin Deschamps. Connaissiez, vous aviez eu vent de cette affaire avant le film?
J'ai eu vent de cette affaire, ouais, je pense, un peu comme tout le monde. On avait entendu parler ce qu'on appelait, au moment de cette histoire, la polémique du Bondi Blog.
Ouais.
Et comme tout le monde, ouais, je me demandais un peu comment on peut cohabiter dans un même cerveau en fait. Eh bien, ce talent de d'écrivain, ces chroniques justement qui l'animaient avec Badrou ici
qui
même.
Qui était très poétique pour le coup.
Bien sûr. Et puis les tweets qu'il a pu écrire. Comment on peut cohabiter tout ça dans un même cerveau et le film justement. S'arrête juste sur cette partie-là de l'histoire. Donc, on cherche pas à comprendre le bonhomme, mais vraiment, on traite les mécanismes.
Et vous, Antoine, en dehors de ce passé trouble sur YouTube que vous aviez...
Sur Facebook,
en tout début d'émission.
Sur YouTube, j'en ai pas encore parlé.
Ah, ça arrive. Vous-même, vous aviez entendu parler de cette histoire, enfin vous...
Oui, enfin moi, c'est vrai que ce que je trouve, enfin moi, les réseaux sociaux, quand j'y suis, c'est tellement radical et violent que je passe 5 heures à m'énerver tout seul, donc je m'en éloigne un peu. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi une question de où va être le pardon et comment le. C'est un tribunal populaire. Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que ces tweets sont vraiment horribles pour certains. Enfin, je veux dire, ils sont vraiment condamnables.
Ouais.
Mais ensuite, la condamnation, c'est comme. Enfin, il disait aussi un truc assez intéressant, c'est que il y a une période où on avait des discussions avec nos potes et où on disait des trucs odieux, mais c'était à la campagne, on le dit entre nous. Et en fait, là aujourd'hui, il y a entre le public et le privé, vu qu'on les met sur les réseaux, on les édite. C'est comme si c'était publié, quoi. Enfin, ouais, je veux dire, c'est brandi, mais c'est pas écrit. Comme si c'était un livre, on l'écrit pas en se disant bon je le mets en avant, c'est quelque chose que je veux défendre, etc. Sauf que ça va être enregistré à vie et du coup on se retrouve avec
un boulet.
Où va être le droit à l'oubli, comment on va revenir de ça et du coup aussi tout le monde va juger et se l'approprier et condamner à sa façon.
Le film se concentre sur 2 jours et démarre donc quand éclate l'affaire. On rencontre Karim à l'apogée de sa gloire et en une nuit, il devient le paria que tout le monde fuit. Rabat, vous avez donc la lourde tâche, en moins d'1h30, de passer de l'état de grâce à la solitude la plus absolue. On l'a dit, c'est pas un biopic. Est-ce que vous lui avez quand même constitué à votre personnage une biographie, une histoire pour tout ce qui se passe avant la chute ?
Non, pas vraiment. Ce que j'ai surtout essayé de faire, c'est, avec Laurent, travailler ce personnage comme 2 personnages. Donc, je m'explique, quand on a commencé le casting, il se pouvait que j'avais un rendez-vous, par exemple, j'avais un rendez-vous avec Laurent dans lequel je dois interpréter une scène de début de film, par exemple, lors d'une fête dans une maison d'édition, ou est-ce que il faut qu'on sente que je suis très à l'aise dans ce milieu, mais que j'ai travaillé pour y être, pour être autant à l'aise. Et puis la semaine d'après, un callback, comme on dit, donc un deuxième casting, ou est-ce que en fait je dois être au bout du rouleau et complètement dans une descente aux enfers. Et je pense que toutes ces séances de casting avec Laurent m'ont aidé aussi à constituer ce personnage. Et que ça m'a servi pendant le tournage. Ensuite, j'avais Laurent comme chef d'orchestre pour un peu graduer un peu plus ou un peu moins les scènes que j'avais à jouer. Mais vous savez, quand je reçois un scénario, je me pose la question, est-ce que ça me parle, est-ce que ça m'intéresse? Et si c'est le cas, je fais une entière confiance à un réalisateur. Je pense que quand on tourne une scène de film et qu'on se regarde au combo, si on devait choisir une prise, on choisirait celle où on a le meilleur profil, parce que l'être humain est comme ça et qu'on n'a pas vraiment de recul sur ce qu'on fait. Donc j'ai essayé d'être le plus malléable possible et le plus enfin faire le maximum de ce que me demandait Laurent.
Arthur Rimbaud, c'est le titre du nouveau film de Laurent Cantet avec nos deux invités, Rabah Naït Oufella et Antoine Reinhardt. Ça arrive au cinéma mercredi, on va continuer à en parler dans quelques instants, mais je vois qu'il est déjà 16h30. 16h30, ça veut dire que c'est l'heure du pop break dans ce pop-pop-pop, enfin l'heure des pop news.
C'est l'histoire de Johnny, un petit garçon de 10 ans qui vit dans une cité HLM de Lorraine avec sa jeune mère dont la vie sentimentale est un peu agitée. Mais cette année, son professeur, c'est Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui. Le film s'appelle Petite Nature et la voix du professeur me rappelle quelqu'un.
C'est quoi ton rêve? T'as bien un rêve? Ils font quoi de tes parents, par exemple?
Et vous, votre rêve, c'était de venir ici à Forbach pour devenir maître?
Moi, mon rêve, c'était de devenir maître pour pouvoir poser les questions.
T'es pas fou, toi, dans ta tête?
Est-ce que touche encore mon histoire, ce que je te fais?
Tu vas apprendre à te défendre un peu. Tu vas arrêter d'être fragile comme ça.
T'as tout juste. Mais l'orthographe, c'est la catastrophe. Il est hyper motivé, donc j'essaie de le booster un peu. Il faut arrêter cette hypocrisie. Enfin, il y a de l'affect dans le métier qu'on fait.
Petite Nature de Samuel Theis avec vous, professeur Antoine Reinhardt. Alyosha Reinhardt et Isia Higelin. Ce sera le 9 mars au cinéma.
Saurez vous reconnaître ce chanteur que par ailleurs on a plus souvent vu dans des séries déjouer des attentats dans un laps de temps absolument réduit. The songs I sing all start to feel the same as we head on down that highway chasing the rain. Chasing the Rain par Kiefer Sutherland, le Jack Bauer de 24 heures chrono, et Kiefer, chanteur, a sorti un album Bloor Street, dispo et recommandé.
Bienvenue dans un lycée de Corée, un lycée d'apparence paisible, mais...
Qu'est-ce qui se passe ici?
C'est comme dernier train pour Busan.
Des zombies?
Pourquoi y aurait des zombies dans notre lycée? Tu t'es cru dans un film?
Un virus.
Les humains contaminés ressentent une terreur immense. Et puis ils attaquent dans le seul but de survivre.
Un virus zombie décime tous les élèves. Un groupe d'étudiants décide de s'enfermer dans l'enceinte de l'école pour tenter de survivre à l'épidémie. C'est une série qui fait peur au titre limpide. All of Us Are Dead. C'est signé Chun Sung-il et ça arrive demain sur Netflix.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Coulon.
Un zombie.
Non, je suis un virus.
Ah pardon,
un virus
je l'avais
qui vous transformera en zombie. Oui, c'est une
c'est
nuance.
Déjà fait.
C'est une nuance. Merci Charline, Rabah Naït Oufella, Antoine Reinhardt. Retournons, si vous le voulez bien, à Arthur Rimbaud, le film de Laurent Cantet qui sortira la semaine prochaine et dans lequel vous jouez tous les deux.
Antoine, vous jouez l'éditeur du jeune prodige, un personnage lui aussi dans une position des plus inconfortables. Il est tiraillé entre son affection qu'on imagine réelle pour son jeune auteur et la nécessité de se protéger du backlash. Un personnage contraint au double jeu. Comment est-ce que vous l'avez abordé?
Moi, je le comprends tout à fait, ce personnage. Non, mais je l'aborde. C'est des métiers où, de fait, là, il a torpillé ses ventes. Il vient de détruire ce qu'on fait ensemble de professionnels. Mais quand on est éditeur, il y a une idée un peu de parrain, de d'accompagnateur. En fait, c'est pas que au moment d'un contrat. On n'est pas du tout soumis à un contrat. Il y a un moment de contrat où le livre sort, mais le reste du temps, on l'accompagne. Il y a une idée un peu d'homme providentiel que nous on cherche chez un éditeur, j'imagine, quand on écrit. Donc, enfin, pas providentiel, mais d'un accompagnant,
un soutien, ouais.
D'un parrain. Et du coup, c'est faire comprendre que il y a toute une partie là qui n'existera plus, qui est la partie de la relation professionnelle. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui reste après? C'est beaucoup plus par touche. C'est je t'accompagne, mais en fait, je t'accompagne dans quoi? Dans ton naufrage, et puis peut-être un jour dans ton retour.
L'affaire M'éclate, vous le disiez, Rabah, hein, avait laissé le sentiment étrange, au-delà de la condamnation évidente des propos insupportables publiés, d'un monde twitterisé, dans lequel tout va trop vite et où chacun réagit avant tout en fonction de positions qui interdisent la nuance. Or, montrer la nuance et l'ambiguïté de la réalité, c'est justement une des ambitions du film de Cantet, non?
Montrer aussi, surtout comme vous le dites, la rapidité à laquelle vont les choses à ce jour, la rapidité avec laquelle aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent créer des carrières, en briser aussi rapidement, créer des héros et en faire des monstres du jour au lendemain. Surtout montrer que via Twitter en 140 caractères on ne peut pas faire de thèse et d'antithèse, et donc toutes ces conditions là créent premièrement des informations qui seraient peut-être les plus raccourcis possibles et auxquelles les gens peuvent s'attacher plus rapidement, et c'est ce qui peut-être nourrit le maximum de thèses, par exemple complotistes, ou bien de fake news.
Et en plus, enfin moi ça me fait penser, je sens chez certaines stars de la chanson, des actrices que je connais qui viennent d'un milieu de banlieue notamment, justement on sent qu'en fait c'est tellement violent, on sent une espèce de tenue de on peut pas se permettre d'écart, parce qu'on sait que ça va très très vite dans le c'est fini, et en plus encore plus chez des gens qui viennent de milieux qui sont des transfuges entre guillemets, parce qu'en fait il y a moins de je veux dire, quand on vient de milieux très bourgeois ou autre, bon, bah, au pire, on a des matelas, des coussins, un peu de retour. Là, on en a moins. Donc, on sent quelque chose chez ces femmes que j'admire, notamment, d'un peu tenue, de je ne laisse rien au hasard, je ne peux pas. Et sur l'idée de radicalité, effectivement, je trouve que Laurent, il apporte énormément de nuances. Enfin, moi, en ce moment, ce que je me dis, c'est, je trouve que c'est très, très radical, tout ce qu'on vit, effectivement, dans les deux sens. Et j'ai des amis qui me disent que, oui, la radicalité dans les combats, d'ailleurs, c'est ce qu'on défendait dans son abattement, que la radicalité, elle permettait d'acquérir des droits et que finalement, c'était aussi une bonne chose dans un combat. Et j'avoue que moi, aujourd'hui, je remets un peu cette question-là en cause. Je me dis, bon, quand on voit la campagne qui a eu lieu en Allemagne, par exemple, qui est une campagne, qui est un endroit de débat, de on laisse ça aux autres, etc., d'absence totale de radicalité, où aujourd'hui l'extrême droite n'existe quasiment plus, ils ont accueilli 2 millions d'immigrés, de réfugiés, etc. Je me dis, nous, notre radicalité, est-ce que vraiment elle est nécessaire? Est-ce que vraiment elle marche? J'ai l'impression qu'elle n'est pas très constructive, en fait.
Le film met le spectateur dans une position de jury, presque. Karim est constamment soumis à la question « Pourquoi est-ce que tu as écrit ça ?» Alors, nous aussi, on s'interroge. Est-ce que tous les deux, vous avez réussi à vous forger un avis sur la question?
Eh bien, moi, je pense que le cinéma de Laurent est fait ainsi, en fait. C'est des ficelles comme ça qu'on tire, et puis des éléments qui questionnent, sans vraiment donner de réponse. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la beauté de son cinéma, en fait. Ne pas, c'est pas qu'il prend pas parti, c'est qu'il laisse le spectateur travailler. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de très intéressant dans ce film, quoi.
Et c'est comme je trouve que les gros récits et les grandes, si ça se résume en deux phrases, voilà. En fait, les grandes œuvres, même, par exemple, sur d'autres thèmes, Camille Kouchner, enfin, quand on lit son livre, s'il y a une condamnation très claire, mais ce qui est beau, c'est que ça nous donne un modèle total, c'est-à-dire qu'on a une histoire de 2 heures et en fait qui nous permet d'appréhender le monde. Donc c'est pas juste oui on condamne ou pas, c'est juste ok, en fait maintenant que je sais ce modèle dans tous ses détails, j'appréhende le monde un peu différemment, et si j'ai d'autres choses qui arrivent, je peux les comparer, je peux les comprendre mieux, quoi.
Karim, alors qu'il est interrogé lors d'une émission littéraire dans le film, finit par répondre « Il n'y a rien de grave, j'ai 200 000 followers et personne ne m'a jamais rien objecté ». Est-ce que c'est une fracture générationnelle ou est-ce que c'est une fracture idéologique ?
Je pense que c'est beaucoup une fracture générationnelle. On a présenté le film avec pas mal de... Enfin, on a fait des séances scolaires, donc avec des jeunes qui... Contrairement à nous autres jeunes qui n'avons pas grandi avec les réseaux sociaux, en fait, on les a découverts lors de leur création.
Mais si vous êtes jeune,
mais les jeunes qui sont nés avec les réseaux sociaux, bizarrement, ne sont en fait ni choqués par peut-être la brutalité des tweets et leur provocation, et ni par le fait que suite à ces tweets, en fait, il y a un rejet complet de ce personnage et une descente aux enfers. Par là, je pense que en fait, ces réseaux sociaux ont des codes, en fait, qui sont au sein même de ces réseaux plutôt acceptés par leurs utilisateurs. Leurs utilisateurs qui font partie de cette génération-là qui n'est pas la nôtre. Et donc peut-être que le, en tout cas le, le conflit générationnel vient de là, oui, peut-être.
Vous n'êtes pas sur Twitter ni l'un ni l'autre, hein.
Non.
Si je ne m'abuse, ou alors sous pseudo, mais du coup, ça pose une autre question.
Mais c'est bien fait de votre travail.
Et sur
travail.
YouTube.
J'ai regardé.
Et sur Facebook.
Sur Twitter.
Non. Ni en pseudo, ni.
Non, ça pose même la question de cette fracture générationnelle, elle pose même la question de la pop culture, donc de votre émission.
Ouais.
C'est-à-dire que, on n'est pas d'accord, mon petit frère de 20 ans me traite de vieux con quand je lui en parle, mais j'ai l'impression que dans les années 90-2000, il y avait une hégémonie de très très peu de médias. Donc en fait, la pop culture, on avait tous des choses qui étaient très très partagées. Aujourd'hui, McFly et Carlito, oui, il y a 15 millions de personnes qui les connaissent à mort, mais il y a aussi 30 millions de personnes qui ne savent pas la différence entre McFly et Carlito et Bigsou et Oli. Enfin, je veux dire vraiment qu'ils ne savent pas qui ils sont. Donc cette idée de culture populaire transversale, je sais même, c'est beaucoup moins pour eux, je sais pas si elle existe encore.
C'est segmenté, vous voulez dire.
Ouais.
Mais c'est aussi parce que ça s'est accéléré d'une manière spectaculaire.
C'est pas forcément mal, hein, que ce soit segmenté, mais...
Plus ça s'accélère et plus ça va vite en fait. C'est-à-dire que le conflit, enfin les différences de génération, par exemple entre ceux qui ont 40 ans aujourd'hui et ceux qui en ont 70, n'est pas si flagrant que ça. Contrairement à nous qui en avons 30 et ceux qui en ont peut-être 24,
ouais.
Ça n'a vraiment, enfin on n'a vraiment pas du tout les mêmes codes. Et je pense que Internet y est pour grand chose. Et comme on parlait tout à l'heure, par exemple des codes de Twitter. Je pense que l'un des principaux codes de Twitter, c'est que pour avoir des followers et de la lumière, si on peut dire, il faut être soit très fort, soit très intelligent, soit provocant.
Très provocateur. Mmh.
Et quand on est provocant, on a des followers. Mmh. Et c'est aujourd'hui des codes qui se retranscrivent dans même plein d'autres milieux, qui n'est pas que Twitter. On voit bien que les hommes politiques, par exemple, qui sont en campagne aujourd'hui, essayent d'avoir chacun, entre guillemets, la punchline qui va faire le plus réagir pour faire le maximum de une. Et c'est dommage que les médias se calquent aux réseaux sociaux. Ce serait bien que...
Voilà quelques-uns des sujets de ce film passionnant. Arthur Rimbaud de Laurent Cantet avec Rabah Naït Oufella et Antoine Reinhartz, qui sont nos deux invités aujourd'hui. Ça sort le mercredi 2 février et c'est à ne pas manquer. Messieurs, dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler de ceci.
Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Je vais mettre votre ceinture, sinon vous risquez de tomber dedans.
Oh, je vais pas tomber dedans, ça va, je suis pas une gonzesse.
Le courant t'emporte, j'ai beau te serrer fort.
Eh oui, de Yasmina Khadra, de South Park, de la reine Margot et de Christophe, tout ça ce sera après Hooray, Hooray. C'est un morceau signé de deux légendes, Ray Cooder et Taj Mahal.
He said, hello, sonny, can I come home?
Voilà, il y a un solo. Il y a un solo d'harmonica et immédiatement Ghislain Fontanus nous coupe ce morceau divin, ouré, ouré, par écouteur et Taj Mahal. Bon, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors ça, c'est vous, Antoine. Vous avez choisi comme son pop cette incantation franchement sinistre qu'on entend dans Eyes Wide Shut de Kubrick. Expliquez-nous ce choix glace.
Alors, au départ, je voulais mettre un bruit de pluie, parce que pour moi, la pluie, c'est le côté, on va au ciné, on lit un livre chez soi, c'est un petit truc cocooning qui va avec la pop culture.
C'est très cocooning.
Et puis, il y a cette scène d'Eyes Wide Shut, c'est pour nous mettre dans l'ambiance. On arrive dans la grande, scène d'orgie avec Tom Cruise. Non, Eyes Wide Shut, c'est dément, c'est un peu ailleurs. Non, c'était juste pour nous mettre dans l'ambiance.
Très bien. Eh ben, nous y sommes. Rabat, Antoine, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série que vous aimez en ce moment. Rabat, on va commencer avec vous. Votre livre, c'est « Ce que le jour doit à la nuit » de Yasmina Kadra. Charline, c'est aussi une question que je vous pose au passage. Qu'est-ce que le jour doit à la nuit ?
Des heures, j'imagine. Un grand roman sur l'Algérie coloniale qui raconte la dislocation atroce de deux communautés amoureuses d'un même pays.
Rabat, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Nous ne sommes pas paresseux. Nous prenons seulement le temps de vivre. Ce qui n'est pas le cas des Occidentaux. Pour eux, le temps, c'est de l'argent. Pour nous, le temps, ça n'a pas de prix. Un verre de thé suffit à notre bonheur, alors qu'aucun bonheur leur suffit. Toute la différence est là, mon garçon.
Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Kadra.
C'est ta moyenne, là.
14,50.
Le choix de Rabat. Pourquoi ce livre-là, Rabat ?
Eh bien, parce que c'est l'un des premiers livres que j'ai lus. Mm-hmm. Et que en lisant ce livre, je m'imaginais un peu l'Algérie des années 30. Mm-hmm. Je m'imaginais un peu ce Younes. Et je m'imaginais en lui aussi. Je suis issu de mes parents sont algériens, nés en Algérie, et j'ai toujours eu cet attachement à l'Algérie et pour l'histoire de l'Algérie aussi. Donc à cette période-là de l'Algérie française, eh bien, je me suis posé beaucoup de questions sur cette période. Et je me suis fait tout un imaginaire sur ce livre. Et ensuite, j'ai vu le film qui a fait l'adaptation de ce livre.
D'Alexandre Arcadie.
Et je m'imaginais pas du tout ça comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que, en fait, la différence entre un bouquin et un film, c'est que le bouquin, on pouvait en faire vraiment tout ce qu'on voulait. Et je m'en suis rendu compte grâce à ça.
Vous êtes votre propre metteur en scène, évidemment.
Quand on lit un livre, ouais. On peut s'imaginer un peu tout. Et je trouve que c'est ce qui m'a donné en tout cas envie de lire.
Antoine, vous avez choisi La Reine Margot. Alors, non pas le roman d'Alexandre Dumas, mais le film de Chéreau avec Isabelle Adjani. Charline, voulez-vous bien nous rafraîchir la mémoire, parce que je connais bien le 16e arrondissement, puisque nous y travaillons, moins bien le 16e siècle.
Marguerite de Valois, catholique et sœur du roi, est mariée de force à Henri de Navarre, protestant, une manœuvre politique destinée à réconcilier les Français déchirés par les guerres de religion. Mais 6 jours après le mariage célébré à Notre-Dame, ce sera la nuit de la Saint-Barthélemy.
Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois ?
J'accepte.
Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Antoine, me trompe-je si je vous dis que c'est plutôt Adjani qui vous intéresse que Marguerite de Valois ?
Grand fan. Ouais. Elle a 40 ans, mais...
Allez-y, lâchez-vous, allez-y.
Elle est au sommet de sa gloire, mais ce film, c'est vraiment... Enfin, je l'encourage à le voir. Il y a toute une période de massacre dans le film, qui est vraiment démentiel. Moi j'avoue que petit j'avais pas le droit de le voir et donc de voir tout le temps la pub avec Adjani et sa robe ensanglantée là qui marche, etc. Ouais. J'étais un peu
traumatisé.
J'ai beaucoup beaucoup imaginé, ouais. Et j'ai pas été déçu. Et ça c'est rare. Et mais il y a tout, il y a des scènes d'empoisonnement avec Asia Argento qui sont démentes. Ouais. Il y a donc toutes ces scènes de cours, et il y a aussi quelque chose où en classe de théâtre on fait beaucoup de Racine, beaucoup de Corneille, ce qui est très beau, hein, mais on comprend pas toujours pourquoi. Mm-hmm. Et là d'un coup on se dit ah ouais d'accord, en fait c'est ça la tragédie. C'est ça, la suivante. Mmh. En fait, par exemple, c'est Dominique Blanc qui joue la suivante, enfin la première de la Dame d'Atour, en fait, de Gianni. Et en fait, on se dit, ah oui, d'accord, mais en fait, c'est une duchesse, c'est une comtesse. Enfin, c'est quelqu'un qui est démente et qui elle-même participe au massacre avec énormément de légèreté.
Aussi, le massacre de la Saint-Barthélemy vous intéresse, je vous conseille vivement le livre de Tim Willox qui s'appelle « 12 enfants de Paris ». Tim Willox qui avait écrit « La religion », chef d'œuvre absolu, on est tous d'accord là-dessus. Bon, Rabat, votre série en ce moment, c'est le mythique « South Park ». Alors, pour ceux qui auraient vécu sur la Lune ces dernières années, Charline, qu'est-ce que c'est « South Park » ?
South Park, une riante bourgade du Colorado, terrain de jeu de Cartman, Stan, Kyle et Kenny, des petits gars aussi inventifs dans leurs bêtises que malpolis.
Merde! Bonjour, monsieur l'agent.
Quand vous êtes assis sur les toilettes, faut mettre votre ceinture de sécurité, monsieur.
Oui, non, mais en fait, non, je l'avais mise, monsieur l'agent, je vous jure, je l'ai juste enlevé une seconde pour attraper le...
L'adresse d'ici, c'est bien le 260 avenue de Los Mexicanos, monsieur.
Soyez sympa, quoi, vous allez pas me filer une amende pour ça.
Vous devez mettre votre ceinture, sinon vous risquez de tomber dedans.
Eh oh, je vais pas tomber dedans, ça va, je suis pas une gonzesse.
La loi, c'est la loi, monsieur. Vous pouvez régler par courrier ou vous présenter devant le juge à cette date. Passez une bonne journée, monsieur.
C'est ça, ouais, toi aussi. Trop du cul.
Y'a un problème?
Non, pas du tout, je parlais à mon trou du cul. Allez, c'est parti, trou du cul, faut qu'on se remette au boulot.
Rabat.
Je suis désolé.
L'humour de South Park. Rire. Oui.
Alors, j'ai commencé à regarder South Park étant très jeune, pour le côté un peu grossier de South Park. Je me prenais pour un adulte en regardant ça. Et j'ai compris bien plus tard que la série dénonçait des sujets qui étaient d'actualité. Mmh. Et comme je le disais tout à l'heure, on est souvent attiré par un art qui dit des choses. Et pour le coup, là, c'était le cas. Et peut-être que j'ai un humour de beauf, mais en tout cas, moi, ça me fait tout le temps très rire.
Celui où je joue à Call of Duty est vraiment incroyable.
Et ça fait beaucoup rire, Charlie.
Ah, mais moi, la vulgarité est un truc qui me fera rire tout le temps.
Ah ouais?
Ouais.
Ah bah c'est bon à savoir. Enfin Antoine, ça me fait tout drôle de dire enfin Antoine, parce qu'en fait je m'adresse à vous Antoine bien évidemment. Votre chanson du moment c'est Océan d'amour de Christophe, ce qui nous garantit une fin d'émission très paisible. Pourquoi est-ce que vous aimez tellement cette chanson?
Il y a deux choses, il y a Christophe qui fait des chansons, elle est un peu moins connue et c'est une chanson assez sublime, mais quand il a déjà 50-60 ans, donc je trouve ça assez beau de réussir à faire ça. Et en vrai, c'est une chanson de venue au monde, c'est-à-dire que la mère de mon fils voulait accoucher en musique, j'avais pas préparé de playlist, donc j'étais en panique. Donc au moment, là, j'étais là, ok, Benjamin Biolay, quel est ta douleur, quel est ta peine, non, enfin vraiment rien ne marche, rien ne passe, et arrive Christophe, et donc c'est une chanson de venue au monde.
Donc votre fils est venu au monde en écoutant cette chanson, Océan d'amour. Oh, bah alors là, on est tous en larmes.
C'est cadeau.
Hein ? Bravo. Bah, on l'écoute tout de suite.
Le courant t'emporte, j'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore, nos corps qui se balancent, tu manges contre danse. Et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt. Se meurt. Sous les étoiles, j'entends ta voix crier.
On s'émerveille.
nos corps qui se balancent. Tu manges contre danse. Et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt. L'amour fou se meurt. Je
Ça, c'était un océan d'amour de la part de Christophe et ça fait du bien. Et ça a accompagné le petit Joseph, donc, quand il est venu.
Oh là là.
Oh, rendez-nous le salmon au passage. On va se quitter là, mais Rabat, on parlait tout à l'heure de votre passage par le rap. Non, il y a un certain temps. Vous, ouais. C'est quelque chose que vous avez tout à fait laissé tomber ou...
Eh bien, c'est quelque chose que... Enfin, en tout cas, je ne me souviens pas avoir commencé à rapper. Mm-hmm. J'ai l'impression d'avoir rappé depuis tout le temps. J'ai un vague souvenir d'avoir arrêté le rap. Je pense que c'était pas loin des années 2013-2014.
C'est vous qui avez arrêté le rap et ce n'est pas le rap qui vous a arrêté.
Ah non, c'est moi qui ai arrêté le rap. D'ailleurs, il n'y a plus eu de rap après.
Écoutons juste ce que ça donnait à l'époque.
J'ai trop d'avance, RABAH, gros, j'ai trop d'aisance. Sorti du 20ème, demande à fraîche, on a un train d'avance. Ils ont trop d'arrogance, mais pas de flow. Trop de couilles, mais pas de go, pas de pro. Ils disent plus grave, mais t'as faux McDo. Donc on s'arrache au rap, brise les barrages, barrage, on débarrasse le son, quel que soit l'âge. Je fais bouger les bondas, apparemment j'ai la cote. Dans le rap, j'ai rien, apparemment j'ai la prod. Apparemment j'ai
ça,
tout.
C'était Rabat featuring Style Fresh et un morceau qui s'intitulait Trop d'avance.
C'est ça, c'est avait trop d'avance, un morceau qu'on avait enregistré lorsqu'on avait 16 ans.
Ouais.
Et Style Fresh a continué d'ailleurs et a fait carrière dans le rap. Moi, je me suis posé la question à 20 ans, vraiment, si je voulais faire ce métier à vie.
Et la réponse a été non.
La réponse a été non. Et puis, je me rendais compte que j'avais commencé à faire du rap à une période où le rap n'était plus... était différent qu'au moment où j'ai décidé d'arrêter.
Bon, voilà. Le cinéma y a gagné ce que le rap y a perdu. Je rappelle que le film Arthur Rimbaud de Laurent Cantet, dans lequel vous jouez tous les deux, Rabat Naït Toufella et Antoine Reinhardt, qui étaient dans ce studio aujourd'hui, sort le 2 février en salle et que Popopop vous le recommande chaudement. Merci Charline.
Merci à vous.
À demain et merci à toute l'équipe de Popopop et à Jérémy Kaufmann qui était à la technique aujourd'hui.